BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Il est 9h passé de 31 minutes. C'est le nouvel horaire des experts dorénavant tous les jours sur BFM Business. 9h30, 10h30. On est ensemble pour une heure de débat, de controverses. Une spéciale clash, cash et backlash aujourd'hui. Backlash environnemental du côté des Français qui ne veulent plus entendre parler environnement, mais croissance et emploi. La crise est passée par là. La fin du mois est devenue une priorité sur la fin du monde pour une majorité de Français. C'est l'un des enseignements du dernier baromètre Odoxa AJP pour Challenge et BFM Business. On va vous dévoiler en exclusivité les résultats d'ici quelques secondes. Et puis le cash, c'est le cash à la pompe. Les stations-service s'en sont-elles mis plein les poches ? Une étude du gouvernement montre que les marges n'ont pas augmenté avec la guerre et qu'elles ont même un peu baissé. On va voir ça avec mes experts du jour. Et puis le clash, c'est entre Matignon et le MEDEF. Le Premier ministre a répondu plutôt vertement à Patrick Martin qui s'inquiétait des incertitudes sur la prochaine loi de finances et qui demandait une règle d'or. Un courrier hors sol, dit-on à Matignon. On va voir ce qu'il en est réellement. Et puis on parlera emploi des jeunes pour terminer. Faut-il revoir le droit du travail pour les jeunes? Aujourd'hui, pas moins de 5 ministres sont en déplacement, dont le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Ils doivent présenter une quinzaine de mesures en faveur de l'emploi des jeunes. On va voir ce qu'en pensent là aussi mes experts. Voilà pour le programme, il est 9h, passé de 33 minutes. C'est parti pour les experts. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri de Menton sur le plateau. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de Challenge, à vos côtés Gaël Slimane. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Président d'Odoxa. Et puis Christian Saint-Etienne. Bonjour. Christian. Économiste, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. Alors on va commencer Gaël, tout de suite avec vous. On est le premier jeudi du mois et comme tous les premiers jeudis du mois, vous avez sondé pour Challenge, pour BFM Business avec AJP. Le moral des Français. Alors on imagine qu'en pleine crise, évidemment, le moral n'est pas au meilleur.
Le moral est très mauvais. Vous avez raison de rappeler le contexte. On est en pleine crise avec cette guerre au Moyen-Orient, cette guerre en Iran. Mais pour les curieux qui ont regardé sur notre site internet ou sur celui de Challenge, la courbe de notre indice de morale économique, puisqu'on suit ça tous les mois, on fait un indice un petit peu à la manière de l'INSEE, on verra que en réalité, le moral, il est très bas depuis très longtemps et il est même scotché au plus bas depuis quasiment 2 ans, depuis la dissolution. Oui, c'est... Les Français estiment qu'on n'a plus aucune manette pour gouverner le pays, qu'il n'y a plus aucune politique possible et donc le moral est très très bas. Et oui, effectivement, ça s'est encore aggravé ces derniers mois avec la guerre en Iran et avec ses conséquences. Et donc, on est sur des indices qui sont stratosphériquement négatifs. Et il y a un élément qui est important, c'est les conséquences de cette situation économique, de cette guerre au Moyen-Orient, sur l'énergie, les prix de l'énergie, sa disponibilité. Et c'est ce qu'on a souhaité investiguer avec Challenge ce mois-ci, en creusant cette question en particulier, parce que c'est un des facteurs d'explication de ce moral encore plus bas que d'habitude.
Alors là, les résultats sont spectaculaires en termes de...
Retournement de tendance, on peut dire.
Retournement de tendance sur les questions environnementales.
Ouais. Oui, mais comme... les Français, comme dirait Emmanuel Macron, sont peut-être des Gaulois réfractaires, mais avec une pensée complexe. En réalité, c'est juste une demande de pause, parce que on est en pleine situation de dérive des prix, les prix à la pompe flambent, sans mauvais jeu de mots. Et donc, on a une question qu'on pose de manière récurrente. Vous l'avez dit, c'est un peu l'arbitrage entre fin du mois et fin du monde, à savoir, est-ce que on doit poursuivre les politiques environnementales de lutte contre le réchauffement climatique, d'investissement dans ce domaine, no matter what, peu importe les conséquences sur que par ailleurs il y ait une crise économique, que ce soit compliqué pour le pouvoir d'achat des Français, ou bien est-ce qu'on doit suspendre ces politiques pendant un temps et mettre l'accent sur le pouvoir d'achat et les aspects...
C'est plutôt ce qu'ils nous disent là.
Et aujourd'hui, 6 Français sur 10 nous disent non, stop, pitié, pause. Là, on met en pause ces politiques environnementales et on fait en sorte qu'on ne soit plus étranglé par notamment les prix à la pompe et la hausse des prix de l'énergie.
C'était l'inverse depuis 5 ans.
Voilà,
hein,
c'est un renversement. On était à 60-40, un peu plus même, il y a 5 ans. Et ça s'est retourné aujourd'hui. Et puis, on l'a décliné, mais je ne vais pas faire de tunnel sur les différentes sources d'énergie. Le regard des Français a pas mal changé aussi.
Oui, on va revenir notamment sur le nucléaire. Moi, j'étais surpris que depuis 5 ans, en réalité, 60% des Français demandent de donner la priorité aux questions environnementales. La crise inflationniste, Pierre-Henri de Menton, on la connaît quand même depuis notamment la guerre en Ukraine, bien d'ailleurs de manière bien plus violente que l'inflation qu'on peut connaître aujourd'hui. Comment vous lisez ces résultats-là ?
Alors, il y a effectivement une demande de pause. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est vous venez de le mentionner, c'est le nucléaire. Il y a eu un retournement qui est aussi, ça ne date pas de ce sondage-là, mais il n'y a pas si longtemps, on fermait la centrale de Fessenheim. Aujourd'hui, il y a un retournement presque excessif. Donc pour le nucléaire, le tout nucléaire. Alors effectivement, le prix de l'électricité n'a jamais été aussi bas. On est en surproduction. Le prix de l'électricité même négatif sur les marchés. Mais il y a une loi qui s'appelle très techno, qui s'appelle la PPE.
La programmation pluriannuelle de l'énergie.
On maintient, et c'est du bon sens, une forme de mix énergétique. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être basculé sur une seule énergie. Et ça, l'opinion publique est en train de tellement basculer pour le nucléaire que c'est de moins en moins admis. Et j'ai peur que ça soit un sujet dans la campagne présidentielle où effectivement, on va avoir l'énergie va quand même être un des thèmes de la campagne.
Ben oui.
Avec une chose qui est intéressante dans le sondage quand même, c'est que les Français sont quand même divisés sur ces sujets. Vous prenez les femmes, elles sont beaucoup plus pour les renouvelables que les hommes. Vous prenez les jeunes, c'est pareil. Donc il y a des vraies divergences à l'intérieur de l'opinion sur ces sujets.
Il y a aussi des divergences, Gaël,
entre ville et campagne. Mais le résultat auquel Pierre-Henri fait allusion, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure quand je disais que les Français sont un peuple complexe. Là, ils demandent une pause parce qu'ils sont étranglés. Mais globalement, quand ils se projettent sur le temps long, ils ont beau adorer le nucléaire, ils nous disent quand même à 53% contre 46% qu'à l'avenir, il vaut mieux privilégier les sources d'énergie renouvelables plutôt que le nucléaire.
Oui, ils ne deviennent pas climato-sceptiques non plus,
les Français. Ils ne sont pas du tout climato-sceptiques. Ils sont très attentifs aux questions environnementales. C'est juste là, en ce moment, légère pause, please. Et effectivement, Pierre-Henri le disait, la société est un peu divisée sur ces sujets. Les femmes, les jeunes, les villes, les campagnes n'ont pas les mêmes perceptions.
Et oui, une société fragmentée. Christian Saint-Etienne, est-ce que le moral des Français, je voulais qu'on revienne, on ira sur l'environnement après, mais sur le moral des Français, qui évidemment est au plus bas, et on a vu en avril le moral des ménages et la consommation qui était vraiment très mauvais du fait de la crise, est-ce qu'il n'est pas indexé sur l'inflation très directement ? D'abord et avant tout.
Enfin, je pense que la clé principale, c'est celle qui a été mentionnée par Gaël, c'est-à-dire la dissolution. Je pense que les Français, en fait, sont très lucides. Voilà, ils sont plus lucides que pessimistes. Ils se rendent bien compte qu'effectivement, plus personne ne gouverne. On a bien vu les deux automnes pour faire passer des lois de finances qui étaient... Tout le monde savait que ça répondait pas aux grands défis du pays. Donc, les Français ont vu tout ça et ils sont inquiets sur le moyen terme. Alors, sur l'aspect de basculement sur le nucléaire, alors, moi, je vais prendre un autre angle, indépendamment de ce que pensent les Français. Moi, je suis pro-nucléaire,
oui,
mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, en fait, étrangement, Hollande avait sorti de son chapeau l'idée qu'il ne fallait pas plus de 50% de nucléaire. Mais moi, dans une analyse stratégique que je fais depuis pas mal de temps, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir beaucoup plus que 50% de nucléaire. Pourquoi ? Ce n'est pas nécessairement pour faire que du renouvelable, mais on a besoin du nucléaire comme système de base. On l'a vu en Espagne, s'ils se sont plantés, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur système de renouvelable. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que si le système a redémarré, c'est que c'est les Français qui ont envoyé du nucléaire. On ne le dit pas. Hein, parce que si les Français n'avaient pas envoyé du nucléaire, l'Espagne aurait peut-être été bloquée plusieurs semaines. Donc on a vraiment besoin d'une énergie de base. Mais il ne faut pas avoir trop de nucléaire non plus.
Alors, pourquoi ?
Ça va vous sembler très loin, mais c'est pour des raisons militaires et stratégiques. C'est-à-dire que je pense que ce sont dans les guerres futures qui semblaient improbables jusqu'ici.
Oui.
des cibles potentielles idéales quand vous voulez frapper un pays. Donc, je pense que 50% de nucléaire, c'est un maximum.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est une forme d'affaiblissement d'avoir trop de réacteurs nucléaires.
Ça peut être une forme de faiblesse dans une guerre future. Donc, ça semble très très loin, mais c'est mon raisonnement. Donc,
on a 54 réacteurs aujourd'hui, ou 56, je ne sais plus, qu'on en ait 56 ou 60, 70.
Voilà, mais pas tout nucléaire pour cette
raison-là. Ça change grand-chose.
Alors, sur le basculement des Français, là aussi j'aurais une autre analyse. Effectivement, il y a 6-7 ans, en gros, en 2019, c'est le moment où on passe le Green Deal au niveau européen.
Oui.
C'est le moment où l'idée verte par la décroissance est à son maximum d'influence en Europe et en France. Alors, on a vu déjà depuis 3 ans le début du détricotage du Green Deal qui s'accélère depuis les dernières élections européennes. Mais ce que je pense, les Français n'ont peut-être pas les modèles en tête pour le dire de cette façon-là, mais ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre par la réglementation. Et ce que les Français sont en train de dire, c'est qu'ils préféreraient qu'on le fasse par de la croissance verte, c'est-à-dire en remettant de l'industrie qui fonctionne à l'électricité. Si on a un excès de l'électricité, c'est d'ailleurs parce qu'on a tellement désindustrialisé qu'il n'y a pas la demande.
Bien sûr.
Donc je pense que même s'ils ne l'expriment pas de cette façon, les Français ne tournent pas contre le climat. D'ailleurs, ils achètent de plus en plus de voitures électriques.
Oui.
Mais je pense qu'ils demandent à nouveau de la croissance, mais une croissance verte, propre et écologique.
C'est très intéressant. C'était le propos de mon éditorial ce matin dans la matinale de Good Morning Business. Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir la lutte contre le réchauffement climatique des mains des politiques qui, en termes de planification, ont plutôt échoué, puisqu'on détricote ce qu'on a fait avant sans véritablement avancer, on a fermé Fessenheim, on revient sur le nucléaire, pour le mettre dans les mains du marché? Est-ce que la crise du Moyen-Orient n'est pas finalement l'équivalent d'une taxe carbone que les politiques n'ont pas réussi à mettre en place en 2018, puisqu'on voit une baisse de 11%, Pierre-Henri de Menton, de la consommation des carburants au mois d'avril, et une augmentation de 48% des ventes de véhicules électriques neufs depuis le début de l'année, plus 69% au mois de mars. Cette crise n'est-elle pas une opportunité majeure pour avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique, par les prix de marché, par les faits prix, pas par des décisions
sur publiques. Sur les prix de marché, juste un point, c'est qu'il y a un marché du carbone qui existe, il a été mis au point par l'Europe, et juste pour signaler, donc ça c'est le rêve, c'est-à-dire que c'est tous les grands économistes, notamment Jean Tirole, ont poussé à l'établissement de ce prix de marché, donc on paye, vous savez, un malus quand on pollue, des droits à polluer, etc. Et ben, ce marché, il est en train de... Il ne marche plus, en fait.
C'est
un gros problème, notamment en raison du... Enfin, c'est un peu technique, le gouvernement allemand a mis des bâtons dans les roues, tout ce qu'il pouvait, pour défendre son industrie.
Et puis des niveaux de prix, on a une taxe carbone de 46 euros, me semble-t-il, par tonne en
France. Donc ce rêve du marché qui régule, il est très très difficile à mettre. Après... les Français, ils votent effectivement à la pompe, etc. Et il y a un décalage incroyable, là encore, excusez-moi Christian, entre les économistes et la réalité des choses. Parce que là, j'ai vu le cercle des économistes a nommé son meilleur jeune économiste de l'année il y a quelques semaines, qui est un type très très brillant, qui travaille sur un campus américain, et qui était allé à la radio en disant effectivement c'est une chance formidable et il faudrait même un litre à 4 euros pour résoudre les problèmes
Absolument.
De la planète. Donc c'est pour moi un échafaudage un peu intellectuel et théorique.
Faut pas qu'il aille l'économiste en question dire ça sur les chaînes américaines, parce que ça ferait un gallon d'essence à 16 dollars et à ce moment-là je pense qu'il sort pas vivant du studio d'une télé américaine.
Le prix de l'essence, justement, c'est le sujet d'une publication par Bercy hier sur les marges, on a beaucoup parlé des marges des distributeurs ces dernières semaines, évidemment ces derniers mois. Les stations-service s'en sont-elles mis plein les poches finalement, Christian Saint-Étienne?
Apparemment, d'après l'étude gouvernementale, ce n'est pas le cas, d'autant plus que, paradoxalement, par un effet de boomerang étrange de la politique, le fait que Total ait plafonné ses prix, et oui, ça a eu un impact sur les prix des autres. Donc, mais apparemment, les marges n'ont pas progressé. Alors, il faut quand même se méfier, je ne veux pas dire de sottises, Pierre, peut-être tu l'as à l'esprit, c'est 60% d'indépendants dans la distribution de à la pompe. Or, ce sont des indépendants qui ont des marges qui leur permettent à peine de rembourser, oui, l'achat de la pompe, l'achat du pétrole, ainsi de suite. On a dû déjà, sur les 30 dernières années, diviser par deux le nombre de stations-service. Oui. Donc, si on les étrangle,
au fur et à mesure de la montée en puissance de la grande distribution,
après, oui, les Français, oui, vont hurler pour qu'on réouvre des stations-service. Donc, si on veut que les indépendants survivent, il faut
bien qu'il y ait des marges.
Mais apparemment, en plus, ils les ont
pas augmenté. Mais ce qu'on voit, c'est que ces marges, elles ont un peu baissé en réalité.
Voilà,
par
rapport à la crise, Pierre-Henri de Menton. Parce que si elles baissent, c'est parce qu'il y a eu l'opération Total Énergie. Hein, c'est Total a permis de faire baisser le... Et c'est d'ailleurs très intéressant du point de vue de la théorie économique, parce que voilà un acteur 100% privé qui mène une politique publique. Et oui, il le présente d'ailleurs, le patron de Total, le présente comme une alternative à la taxe, donc à une décision...
Si vous me taxez, j'arrête de plafonner, voilà, les prix. Hein, voilà. C'est ce qu'a prévenu Patrick Pouyanné.
Il faut juste rappeler, parce qu'on le sait ici, mais que Total fait 90% de ses bénéfices hors de France et que c'est grâce aux bénéfices hors de France qu'il peut plafonner en France.
Les Français, ils pensent quoi? Qui profite de la crise? Qui sont les profiteurs de crise pour...
Alors, les Français ils pensent surtout qu'ils ne supportent pas de voir défiler leur argent à la pompe. C'est parce que quand on y réfléchit, ça pèse pas si lourd que ça dans le pouvoir d'achat des gens.
De plus en plus, là, hein,
alors,
pour le coup.
Oui, mais c'est pas le sujet qui pèse.
Il y a 6 millions de rouleurs, c'est ça.
C'est la vision. C'est une des rares fois où vous voyez votre argent comme si vous le brûliez, comme si on vous le brûlait sous les yeux.
C'est une question de présentation,
et donc,
en fait.
Quand vous voyez les prix à la pompe, surtout qu'il y a des prix ronds, donc 2 euros, 2,20 €, c'est, ouais, pas la même chose. Donc ça crée des effets. Donc les Français, un, ils ne supportent pas de voir les prix de l'essence flamber. Quand ça arrive, parce que c'est un facteur exogène, bah, ils vont pas se mettre dans la rue et se transformer en gilets jaunes. Même si les prix à la pompe au moment des gilets jaunes étaient plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui, oui, ou qu'ils ne l'étaient au plus haut de ces dernières semaines.
Sensiblement plus
Mais
bas même.
Ils sont très sensibles au fait que les hommes politiques les surtaxent. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément sur le rapport des Français à tout cela, c'est qu'on l'avait sondé dans un précédent baromètre, ils ne comprennent pas pourquoi... Enfin, ils ne comprennent pas. Ils auraient voulu, parce que je pense qu'ils le comprennent, ils auraient voulu qu'on fasse ce que l'Espagne a fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de cibler telle ou telle catégorie, que par ailleurs ils jugeaient légitime de devoir protéger, eh bien, les pêcheurs, vous savez, les agriculteurs, eh bien, que l'État aille encore plus loin et faire ce qu'a fait le gouvernement espagnol, c'est-à-dire dise, moi, je ne m'engraisserai pas sur votre dos et je baisserai les taxes et notamment la TVA sur l'essence. Sauf que c'est une mesure dont nous n'avons plus les moyens de prendre aujourd'hui.
L'Espagne est moins endettée que nous.
On attend quand même, il devrait y avoir des annonces en début
de semaine. Oui, le Premier ministre a annoncé qu'il fallait changer d'ampleur. A-t-il raison et a-t-on les moyens de le faire?
Il y a une étude publiée par le FMI hier, donc qui calcule l'effort en matière de finances publiques qui a été fait là depuis quelques semaines pour contrer les effets inflationnistes de la crise. La moyenne en Europe, c'est 0,2% du PIB, ce qui est quand même important, avec effectivement des champions qui sont l'Espagne, la Grèce, entre parenthèses, hein, c'est des pays qui étaient au bord de la faillite il y a quelques années. Ouais. Et donc c'est 0,2, et la France, elle est à 0,02.
Hein, donc on fait 10 fois moins que la moyenne européenne.
Donc il n'y a sans doute pas beaucoup de marge de manœuvre, il y en a quand même sans doute un tout petit peu. Voilà, mais effectivement, il n'y a pas eu, puisque on a encore une fois un acteur privé qui a fait le job, mais il y a des effets induits.
L'État a fait une délégation de services publics avec Total, là.
Mais il y a des effets induits.
D'autant plus que l'État est actionnaire de Total à hauteur de 1,3%, si je ne dis pas de bêtises, et donc devrait toucher quelques centaines de millions d'euros de dividendes voilà. de la part de Total, dû aux meilleurs résultats qui peut-être
bon, pourraient servir. Après, il y a un effet volume. Hein, ça, s'ils perdent vraiment de l'argent avec cette histoire totale. Et l'autre chose, si vous voulez, c'est qu'il y a des effets induits très directs. Par exemple, vous regardez ce qu'ont fait beaucoup de Français, les prix des TGV actuellement. Bon, ben, les oui. capacités étant...
SNCF en profite.
Ils ont des taux de remplissage à 110%.
Le grand
donc le vrai profiteur de la crise, c'est peut-être
la SNCF.
Il faudrait peut-être les taxer.
On va en parler à Jean Castex.
Non, mais j'aime bien question. Cette notion de DSP qui n'est pas une délégation de service public, mais au fond, une délégation de service politique.
Oui, c'est un peu ça. Il a raison, Patrick Pouyanné, de sortir là sur soit c'est la taxe, soit c'est le plafonnement, mais je ne peux pas faire les deux.
L'élément central, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est que les profits de Total, ils se font hors de France. On devrait se féliciter d'avoir un acteur massif comme Total, qui est très admiré par les Américains. Les Américains rêvent de mettre la main sur Total. Total a mis une double cotation aux États-Unis. Grands investisseurs américains, je crois, sont déjà à plus de 40% de l'actionnariat de Total. Bon, on devrait se féliciter plutôt que de cogner en permanence sur l'entreprise. Je précise que je connais personne chez Total. Je réfléchis juste sur le plan stratégique. La question, c'est au-delà de ça, est-ce que on a eu une politique cohérente ? Parce qu'on rappelle toujours, on le dit sans arrêt. On est plus intelligent sur BFM Business, mais quand vous écoutez l'ensemble des radios, c'est toujours la crise du Moyen-Orient. Non. C'est que la France a fermé 4 grandes raffineries sur les 15 dernières années.
Et bien le rappeler, oui.
Que l'Europe a fermé des tas de raffineries parce que on pensait que c'était moins cher d'importer directement de l'essence du Moyen-Orient, du kérosène pour les avions du Moyen-Orient, de l'aluminium du Moyen-Orient. On est passé pas loin, il y a quelques années, de fermer carrément Dunkerque, qui est la grande dernière production d'aluminium en Europe. Au lieu de doubler Dunkerque, on s'est dit on va aller le chercher là-bas. Eh bien, on réapprend ce qu'on avait déjà. Alors, c'est ça qui m'inquiète et que je trouve désolant. C'est qu'il faut chaque fois une baffe pour qu'on se disent il y a un problème.
Oui.
Donc quand on n'a pas eu de masques et de produits en 2020, on s'est dit qu'est-ce qui se passe ? En fait, derrière, plus rien, hein, puisqu'on avait dit on va payer plus cher les médicaments produits en Europe. Mais même Macron avait fait une commission sur ce point qui avait dit oui, on peut payer un peu plus cher les médicaments produits en Europe. Je crois que les Allemands ont commencé à le faire. Ici, c'est pas possible. Rien n'est possible en France. Donc moi, j'appelle à un retour de la réflexion stratégique, quoi. C'est-à-dire, parce que des baffes comme le Covid et comme ce qui se passe au Moyen-Orient, il va y en avoir des tonnes dans les années qui viennent. Est-ce qu'on va attendre à chaque fois la nouvelle baffe pour essayer de bouger un peu ?
Oui, puisque vous dites sur le raffinage du carburant, c'est la même chose sur les terres rares.
Exactement.
On a exactement le même problème.
On avait la moitié de la production européenne en France il y a 30 ans, aussi, là, Ron Poulenc, qui était actionnaire, pour pouvoir privatiser et quelques patrons pour s'en foutre plein les poches. Voilà, non, ça, c'est complètement délirant, quoi. On a un État tatillon et impuissant. Moi, j'appelle en retour un État stratège qui travaille avec les filières
Faut pas trop quand même se jeter de la cendre. Hein. Il y a pire ailleurs. Hein. On parlait de l'Allemagne. Bon, le modèle allemand, ça a été quand même mis sous dépendance complète du gaz russe.
Ah non, mais nous, on pourrait faire mieux.
Que des achats de la Chine. On a vu ce que ça a donné. Et là, on a un chancelier qui est au plus bas dans les sondages, oui. Hein, comme d'ailleurs le Premier ministre britannique, oui. Qui, à mon avis, ne va pas tenir très longtemps.
Très compliqué.
Donc, ce moral en berne, cette défiance, etc., elle n'est pas non. Alors, c'est un sport national en France, hein, ça, on est
non, mais c'est,
quelque
non,
part
c'est,
entre clair, l'Afghanistan.
Ce que je disais, c'est qu'on pourrait faire tellement mieux.
Oui, mais. Voilà, on a aussi, regardons un tout petit peu ce qui se passe à l'extérieur, et on parlait des Américains et de Total Energy, L'essentiel du gaz qu'on apporte, du fameux GNL qu'on apporte aux États-Unis, il est produit par Total Energy, hein, aux États-Unis, qui est le premier producteur, le premier exportateur américain. Donc, voilà, on est quand même assez agile, on
l'essentiel
sait faire des choses.
L'essentiel du GNL que l'on importe, absolument, c'est Total qui, ouais, le produit,
absolument,
aux États-Unis. Hein,
c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, les Américains s'intéressent beaucoup à Total, c'est qu'ils ont investi massivement dans le gaz aux États-Unis. Voilà, ils avaient fait la même chose au Qatar et donc effectivement, ces fameux profits délirants de
oui, Total Energy, aussi à ça.
Ils proviennent aussi du fait que le gaz, il coûte pas cher du tout à produire aux États-Unis et il coûte très cher à acheter aux Européens, hein, parce que c'est pas un marché mondialisé comme celui du pétrole.
Ils le perçoivent, ça, en un mot.
Alors, Total a réussi un très joli coup de communication.
Oui.
Je sais pas où ils en sont sur les marges, s'ils ont dû faire des sacrifices, mais vous l'avez rappelé l'un et l'autre.
Je crois qu'ils ont engrangé quelques centaines de milliers de contrats électriques grâce à ça, car vous avez une ristourne supplémentaire si vous prenez un contrat électrique.
Donc, en termes d'image, c'est bien, mais c'est surtout que Total a un vrai sujet stratégique sur... Évitons les baffes, pour reprendre les termes de Christian, parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent des super profits, derrière il y a une polémique politique qui s'enchaîne avec des demandes de certains partis politiques de taxer et surtaxer encore les super profits de Total. Donc là, ils achètent à bas prix malgré tout, et peut-être même ça ne leur coûte pas si cher ou ça leur a rapporté cette opération, mais ils achètent à bas prix. Quelques points d'image dans l'opinion, sachant que ce que dit Patrick Pouyanné peut s'entendre pour les Français. C'est-à-dire, on veut bien une baffe, mais pas deux.
Oui.
On veut bien...
C'est pas ceinture et bretelle.
Ouais, on veut bien la taxe, mais à ce moment-là, on fait pas le blocage des prix. Ou alors, on bloque
le
prix.
On ne retend pas la
joue chez Total. Mais dans ce cas-là, pas de taxe. Donc, c'est plutôt habile en termes de communication.
Mais c'est habile. C'est-à-dire qu'il est, Patrick Pouyanné devient champion du pouvoir d'achat et prend la place de Michel-Édouard Leclerc.
Un petit peu.
C'est quand même...
Quel retournement. Qui l'eût cru. Allez, on va se quitter pour une très courte pause. On va se retrouver dans une minute. On va continuer dans les clashs et dans les baffes. Cette fois-ci, c'est entre Matignon et le MEDEF. C'est à coup de courrier qui circule dans la presse. À Matignon, on estime que le patronat est hors sol. Rien que ça, on va voir pourquoi. Et puis, on reviendra sur l'emploi des jeunes. 5 ministres annoncent un plan aujourd'hui pour renforcer le taux d'emploi des jeunes. On va voir ce qu'en pensent les experts. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h, vous êtes en direct sur BFM Business. On est reparti pour les experts. C'est la seconde partie de l'émission avec toujours Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, Gaël Sliman, président d'Odoxa, et Christian Saint-Etienne, économiste, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. On parlait de clash, c'est le clash entre Matignon et le MEDEF. Qui fait la une de l'actualité ce matin. Alors le MEDEF qui a envoyé la semaine dernière une missive au Premier ministre pour parler loi de finances. Évidemment, les chefs d'entreprise en ont ras-le-bol. Ça fait 2 ans, on en parlait en début d'émission, de la cacophonie parlementaire autour du vote des différents budgets. Évidemment, à la fin, c'est l'entreprise qui raque, hein, et notamment les grandes entreprises avec la surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, le Premier ministre a répondu, et plutôt vertement, au patron du MEDEF qui s'inquiétait de ses inquiétudes et qui demandait une règle d'or pour tenir les dépenses. À Matignon, on parle d'un courrier hors sol de la part du patronat, Gaël Sliman. Est-ce que pour vous, il est hors sol, ce courrier?
Parce
qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter un peu
deux
de
éléments,
la mauvaise marche
on a fait
des budgets.
On a consacré notre sondage d'actualité, qui en général est un sondage politique qu'on fait avec Le Figaro et Backbone. On a consacré notre sondage à ce sujet-là et à cet échange. Alors, on n'avait pas encore le retour de kick de Matignon, mais on avait le message de Patrick Martin. Et les Français donnaient raison à Patrick Martin. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'ils donnaient raison, un, de se préoccuper de ces questions de budget d'un certain sérieux, d'une certaine stabilité. Et deux, on a testé l'idée de la règle d'or budgétaire.
Oui.
Et on a une très large majorité de Français qui disent oui, c'est du bon sens. Donc, mettre dans la Constitution, imposer la règle d'or dorénavant dans la Constitution. Moi, je ne me prononce pas sur le sujet, mais c'est quand même un moyen aussi de limiter les marges de manœuvre des politiques. Et je vois dans la réponse de Matignon deux raisons. Un, bah, vous rendez, si vous mettez en place une règle d'or budgétaire, vous rendez globalement les politiques beaucoup moins, vous les privez d'un certain nombre de marges de manœuvre.
Et puis, vous limitez les dépenses, quoi. C'est pas un carnet de chèques à volonté sur le déficit.
Exactement, mais c'est génial quand on est politique de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir cramer la, comment on dit, cramer la caisse, si on veut. Et deuxièmement, il y a aussi cette idée que, il met le doigt là où ça fait mal, Patrick Martin, en montrant qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et que ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis la dissolution, en fait, il n'y a aucun politique qui peut vraiment gouverner le pays et prendre des mesures sérieuses sur les aspects budgétaires. Et c'est pour ça que Matignon et que Sébastien Lecornu le renvoient dans ses buts.
Mmh. Ça transpire un peu là. Bon, je ne veux pas dire, mais réponse de Matignon. Patrick Martin a écrit au Premier ministre sur le budget, mais sans faire aucune proposition sur le fond. Ce courrier était hors sol, dénonce un proche du Premier ministre. Le Premier ministre qui répond au président du MEDEF, les modifications de procédure que vous suggérez sont largement dans les mains des assemblées parlementaires et non du gouvernement. Alors évidemment, le MEDEF a écrit au président de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi. Ils ont reçu la même lettre, mais ça transpire la mauvaise foi, la réponse de
Macron. Mauvaise foi, c'est surtout de la politique. On est dans la politique. Pour un gouvernant, c'est pas forcément très rentable, même si au Figaro, on trouve ça très bien, d'être dans la roue du MEDEF et du patronat. Autre chose, d'un point de vue économique, il faut savoir de quoi on parle, effectivement. La règle d'or, c'est plus personne ne fait la règle d'or. Il y a un pays qui le fait, c'est les États-Unis. Ça a été mis en place par Ronald Reagan, je crois. Et on arrive à des situations
avec le shutdown,
avec le shutdown ubuesque, si vous voulez, où on l'admet, les fonctionnaires sont plus payés, etc. Donc, est-ce que les Français sont prêts à ça? À voir. Et je note que le pays le plus vertueux, qui est l'Allemagne, qui est encore une fois le modèle, a complètement lâché prise. Il y avait pas de règle d'or. Il y a un système qui s'appelle le frein sur la dette, qui a été défait. Hein, le frein, il a été lâché. Et on est en train le déficit public est en train de courir gentiment maintenant. Donc là aussi, on n'est pas non plus dans une situation unique. Il y a eu une étude de Goldman Sachs, je crois, cette semaine, disant qu'on va être dans les clous, notamment grâce au fait qu'on a le nucléaire et on a un matelas sur la facture énergétique.
Dans les clous, on va être à 5%.
Mais on est quand même dans les clous, hein, ce qu'on a du mal à imaginer.
C'est plus, on est dans les
agences
dans
de rating. Les agences de rating, vous lirez à chaque fois.
On n'est pas pénalisé. On le voit sur les taux.
On n'est pas dans une situation de panique. Encore une fois, on est en début de campagne présidentielle. On est dans la politique. Et en plus, il y a quelque chose qui a un petit peu agacé, j'imagine. C'est cette histoire de déjeuner avec Bardella, etc. Donc, on est. Et surtout, ce discours en disant on va apprendre au RN ce que c'est que l'économie, ce qui est quelque chose qui est, à mon avis, pas très, très sérieux.
Christian Saint-Étienne.
Bon, je vais faire plaisir à Raphaël Legendre en prenant le contre-pied total de ce que vient de dire Pierre-Henri de Menton. Alors, il se trouve que je suis chroniqueur aux Échos et ça fait au moins deux chroniques sur les quatre dernières années où j'ai écrit qu'il fallait une règle d'or. Sauf que j'intègre...
Vous me faites plaisir, Christian.
Sauf que, il faut un peu de subtilité. Alors, la règle d'or générale...
Rappelons ce qu'est la règle d'or et comment elle peut s'appliquer.
La règle d'or, c'est une disposition constitutionnelle qui, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, c'était pas constitutionnel dans le cas de l'Allemagne, mais c'est une disposition constitutionnelle, si elle est dans la Constitution, qui interdit le déficit. Oui. Et qui donc oblige le gouvernement, face à des déficits, à prendre des mesures immédiates plutôt que de laisser le déficit se développer. Alors, généralement, quand on parle de règle d'or, on pense à une règle d'or générale sur l'ensemble des finances publiques. Alors, je pense effectivement que ça ne peut pas marcher. En revanche, je suis désolé, mais comme on est aux experts, moi j'ai proposé trois règles d'or constitutionnelles.
Non, mais il y en a déjà une qui existe pour les collectivités locales,
voilà,
par exemple.
Voilà, mais sauf que là, c'est pas vraiment une règle d'or parce que ça ne porte que sur les dépenses de fonctionnement.
Oui.
Alors justement, je pense qu'il faut une règle d'or sur le budget de la protection sociale.
Oui.
Et là, c'est...
Je rappelle que c'est la moitié des dépenses publiques.
Oui, mais c'est une question fondamentale. Parce qu'on peut pas renvoyer... Parce que c'est quoi les dépenses de la protection sociale? C'est notamment les retraites et le remboursement des médicaments. Et on peut pas renvoyer le déficit correspondant à, aux retraites et aux dépenses de médicaments aux générations futures. C'est complètement cinglé. Donc, le déficit de la Sécu, il tourne à peu près à un point de PIB. Je pense qu'il faut effectivement une règle d'or sur le déficit de la Sécu.
C'est 25 milliards d'euros, un point de PIB. Là, on est un peu moins, mais c'est 25 milliards d'euros, le déficit de la Sécu cette année. Oui.
Je vais assez loin. Bon, qui est que je pense qu'il faudrait revenir à la semaine de 37 heures, ça fait 5% de hausse des salaires et au même moment...
Et donc plus de cotisations. CSG.
Donc au moment où on fait la règle constitutionnelle sur la Sécu, on donne 2 points de CSG à la Sécu pour qu'elle puisse respecter la règle d'or. Deuxième réglementation, il se trouve que j'ai eu une expérience d'élu local à la mairie de Paris, donc j'étais responsable du budget de la mairie, mais j'ai aussi fait des études sur ce sujet et j'ai lu les études de mes camarades. Quand vous regardez les dépenses des collectivités locales, elles ont une règle d'or sur les dépenses de fonctionnement, mais il se trouve qu'il n'y a rien sur les dépenses d'investissement et... À peu près 60% des dépenses d'investissement des collectivités locales, c'est juste de l'amortissement et renouvellement des réseaux. Donc là, je dirais aussi, il faudrait exiger que les collectivités locales couvrent par les recettes courantes et les dépenses de fonctionnement et les renouvellements de réseaux. Et la troisième règle d'or, qui serait assez lâche en fait, qui concernerait que l'État. Pourquoi ça serait assez lâche? L'idée, ça serait que l'État ne puisse pas avoir un déficit supérieur à 3 points de PIB, qui est censé être la règle européenne, mais qui en fait fait sens. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'État est le réassureur de tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est l'État qui fait l'échec. Donc l'idéal, ça serait que... À l'intérieur de la règle d'or de 3%, on dit que quand la croissance est positive, l'État doit avoir un déficit inférieur à 1,5 du PIB et qu'il ait une marge de manœuvre pour faire face au choc. Voilà. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé que simplement une règle d'or qui interdise purement et simplement le déficit.
Alors, excusez-moi, Christian, mais on est dans ça va être difficile à vendre, hein.
Oui.
C'est quand même une usine à gaz, si je puis dire, très compliquée. Mais quand on demande aux Français, en ce moment, par exemple, il y a un consensus, effectivement, il va falloir qu'on ait des dépenses d'armement de 2% du PIB,
oui.
Et même sans doute au-delà. Je rappelle que la Pologne, par exemple, est à 4%. On demande aux Français, oui, bien sûr, il faut construire des nouveaux réacteurs nucléaires, c'est indispensable. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il y a des priorités, il y a effectivement des problèmes qui se posent, qu'il faut résoudre, il faut bâtir sans doute une meilleure stratégie de l'État, mais c'est pas en fixant une règle d'or et en se disant on va fermer les musées. C'est un peu ce que demande la règle d'or du MEDEF. C'est pas ce que vous dites, mais on est quand même
ces fameux critères
de Maastricht. Ils sont troués de partout maintenant.
Oui.
On essaie de distinguer les dépenses d'investissement de fonctionnement structurel, pas structurel. Mais le fait est que, alors, il y a un consensus maintenant, je pense, pour dire, on fera pas un nouveau quoi qu'il en coûte. Je pense qu'on a compris. Mais est-ce qu'on a besoin d'inscrire ça dans des textes? Moi, je ne suis pas persuadé.
Et alors, justement, je continue d'être en désaccord pour une raison pratique, totalement objective et ras de terre, qui est que dépenses d'intérêt sur la dette qui était à 20 milliards il y a 2 ans seront à 100 milliards en 2030. Donc si on veut simultanément augmenter les dépenses militaires pour assurer la survie de la nation, si on veut avoir une politique énergétique avec un triplement des dépenses d'intérêt, ça veut dire qu'on va couper ailleurs. Donc quand je dis qu'il faut une règle d'or sur la durée, c'est pour éviter la situation dans laquelle on se trouve maintenant de progression phénoménale des dépenses d'intérêt.
Il y a beaucoup d'argent quand même. Il y a beaucoup d'actifs financiers qui circulent. Il y a des réformes structurelles qui n'ont pas été faites. Par exemple, c'est très techno, mais l'union des marchés de capitaux européens.
Très important.
La défense,
on attend toujours.
Elle pourrait être financée sur dette, qu'un eurobond sur la défense. C'est des trucs évidents qui pourraient être faits. Mais en particulier sur la dette. Il y a encore, les poches, elles sont profondes. Hein, donc,
il y a de l'argent, pas, quoi. C'est ce que
voilà,
vous nous dites, Pierre-Henri Monton, ce matin.
On va pas. C'est, je pense qu'il y a un réel problème sur les dépenses sociales en France, mais on n'est pas au même niveau. Si vous voulez, il y a des priorités, il faut y aller assez vite. On va pas.
Ce que je proposais tout à l'heure n'empêcherait pas de
voilà,
faire.
Voilà. On va pas dire on vire la moitié des je sais pas combien de dizaines de milliers de fonctionnaires pour pouvoir financer la défense. Et malheureusement, je pense que ce discours-là, il est assez présent dans le patronat.
Et en plus, on a en plus de ce que vous venez de rappeler l'un et l'autre, on a des demandes très fortes en matière de services publics aujourd'hui. Et notamment sur ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire en matière de santé. Et donc, globalement, je rebondis pas sur ce que vous disiez, Christian, sur les solutions. C'est deux choses se télescopent que je mesure dans nos sondages à longueur de temps. C'est à la fois une validation systématique par les Français, Pierre-Henri le rappelait, de toutes les dépenses supplémentaires qu'on pourrait faire sur tous les sujets légitimes du moment. La défense, l'investissement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, dans ce que vous voudrez, plus une demande très forte de services publics en disant il y a deux services publics auxquels il ne faut pas toucher, c'est l'éducation et la santé, qui est à peu près ce qui coûte le plus cher à l'État. Et en même temps, des Français qui nous disent mais on a bien conscience que la dette, les déficits, c'est un problème et qu'il faudrait, pense-t-il, une règle d'or. Donc tout ça, ça fait une mécanique...
Sauf que quand on entre dans le détail, c'est un peu compliqué.
Un gloubi-boulga impossible, sachant que nous sommes dans la pire des années, puisque nous entrons en campagne électorale.
Et oui.
Là, on a notre baromètre politique du
il y a quelques jours. Je ne sais pas comment on fait, parce qu'il y a une soixantaine de candidats maintenant.
Il y en a beaucoup, mais du coup, on a 70% des Français, sachez-le, qui nous disent « mais ça y est, on est déjà dans la campagne présidentielle ». Donc pendant un an, on va être en campagne présidentielle, et comme nous vivons dans une 5e République avec une élection du président de la République au suffrage universel direct à deux tours, eh bien, on est obligé de promettre n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant un an, vous allez avoir un défilé permanent de promesses à peu près irréalistes.
Vous pensez que la contrainte budgétaire va être totalement balayée?
Non, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on parlera, tout le monde parlera de la contrainte budgétaire. C'est-à-dire que tous les candidats diront, attention, le budget, parce qu'ils ont bien compris que ça préoccupait les Français, donc ils diront, et elles diront, que la contrainte budgétaire, c'est très important, ça ne doit pas peser sur les générations futures. Et en même temps...
La première sortie de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle cette semaine, est de dire que la dette ne pose aucun problème en France et qu'on nous ment.
C'est
monstrueux.
Non, mais c'est une exception quand même. C'est-à-dire que la plupart des autres partis politiques, il y a presque mieux. Le Rassemblement National, parce que d'une certaine manière, la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, propose des mesures. On en pense qu'on veut. Mais ils disent... pour qu'il y ait plus d'argent à distribuer, on va imposer davantage. Ça fait plaisir ou pas plaisir, mais au moins il y a une cohérence globale. Dans le cas du Rassemblement National, on verra aussi les explications que donnera Jordan Bardella, probable candidat du RN, quand il nous dit, lui, il veut se faire bien voir du MEDEF, il considère qu'il faut être sérieux économiquement et réduire la dette, les déficits, et en même temps, à part... expliquer que miraculeusement en tapant sur l'immigration, on aura
100 milliards d'économies.
Des économies, mais c'est pas très crédible. Enfin, dès qu'on creuse un peu, ça ne marche pas. Donc, on va avoir le bal des
voilà.
On revient à ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. C'est l'absence de gouvernement stratégique, c'est-à-dire que il y a un moment. Alors, sur l'élection présidentielle en France, c'est devenu monstrueux. Moi, j'ai écrit il y a longtemps. Maintenant, le système présidentiel français, c'est l'élection tous les 5 ans d'un Père Noël impuissant.
Oui, c'est ça.
Père Noël, c'est dans l'année qui précède.
Ce qui est fou, c'est qu'on croit toujours à l'homme président,
une fois élu.
Providentiel.
Il y a même des constitutionnalistes qui, sérieusement, disent que ça a été une erreur de faire une élection peuple, sachant qu'on a un peuple très particulier.
C'est le régime. C'est-à-dire que dans les autres pays... on y est tous très attachés dans nos sondages. Les gens disent « je suis attaché à l'élection présidentielle, au suffrage universel direct ». Mais dans les autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous les autres pays, les grandes démocraties du monde, fonctionnent avec un système parlementaire où on est bien obligé de ne pas promettre n'importe quoi, où il n'y a pas une personnalisation absolue, et où on sait très bien qu'ensuite il y a des coalitions qui se mettent en place et qu'il faut accepter de part et d'autre de faire des compromis pour gouverner. En France, c'est pas ça. En France, vous regardez la popularité du président, ça monte au sommet dans les quelques mois qui suivent son élection, quelques semaines et quelques mois. Et ensuite, il est détesté. C'est effectivement le Père Noël impuissant.
Et donc, Pierre-Henri m'étonne par son discours extrêmement politique et consensuel. Bon, moi, évidemment, on peut me dire, t'es pas au pouvoir.
Pour reprendre ta carrière politique. Voilà.
Mais si on réfléchit, il y a un moment, il va falloir dire aux Français, si vous voulez qu'on fasse de la défense, qu'on soit plus souverain,
il y aura des choix à faire.
L'énergie, sur l'agriculture. On le sait depuis des années que l'azote et la potasse, on en a besoin pour l'agriculture. Tout ça, on l'a envoyé à l'extérieur. Donc, il y a un moment, il faut bosser avec les filières, reconstruire des choses cohérentes. Je suis sûr que les Français adoreraient ça, d'ailleurs, si on faisait un travail avec eux, filière par filière. Donc, et il y a un moment, on va être obligé de leur dire, on peut pas avoir le record du monde du poids des retraites dans la dépense publique. Gaël disait, les gens veulent plus de santé. Moi aussi. La question, c'est que la participation des Français aux dépenses de santé, c'est une des trois plus basses au monde.
Le reste à charge, comme on dit.
Le reste à charge est autour de 7% des dépenses de santé, alors qu'il est en moyenne de 15% en Europe, il doit être de 40% aux États-Unis. Là aussi, dire à un moment donné, vous payez au moins 50 centimes sur les boîtes de médicaments, ou 1 euro, ou quand vous allez chez le médecin, vous payez au moins 2 euros, pour que les gens connaissent les prix, puisque... On parlait tout à l'heure de l'impact du système de prix sur les prises de décision.
Et des arbitrages à faire peut-être sur la jeunesse aussi aujourd'hui. Pas moins de 5 ministres sont mobilisés sur l'annonce d'un grand plan pour augmenter l'emploi des jeunes, à la tête desquels les ministres, Jean-Pierre Farandou, évidemment, le ministre du Travail. Ils doivent présenter une quinzaine de mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Je rappelle simplement les chiffres. Fin 2025, 21,5% des actifs de 15 à 24 ans étaient à la recherche d'un emploi. Presque 3 points de plus en un an. Et on a 1,5 million de jeunes qui n'ont ni formation, ni job, ni diplôme. Ce qu'ils appellent les NEETs, les fameux NEETs. Que faut-il faire pour traiter ce grand sujet, Pierre-Henri de Menton ?
Alors, c'est effectivement le grand sujet. Alors, je suis désolé, je fais encore la politique. Il y a un problème démocratique. C'est que ces jeunes-là votent très peu. Je parle du contrôle de Gaël Simon. Donc, ils n'ont pas un poids. Mais ce phénomène, nous, on l'observe. C'est dans toutes les catégories que vous prenez les étudiants en école de commerce, fils à papa, ou des enfants d'ouvriers. On trouve plus de job. Il y a un phénomène structurel
à cause de l'IA
qui est en train d'arriver, qui est celui-là. En tout cas, sur les emplois, beaucoup d'emplois tertiaires. Après, on a la robotisation sur d'autres types d'emplois. Donc, on a une sorte de désenchantement, et même, j'ai l'impression, ça a dû être quantifié. Moindre appétence, on va dire, pour le travail d'une partie de la jeunesse, qui vient sans doute du fait qu'on ne propose pas tellement de jobs qui puissent être intéressants. Donc je pense qu'il y a déjà un problème politique. Après, il y a quand même beaucoup qui a été fait sur la formation. C'était une des priorités des deux mandats d'Emmanuel Macron. Donc ce problème, il existe depuis très longtemps, celui des NEET sur la formation. Et là, pour des raisons de contraintes budgétaires, et il y avait aussi beaucoup d'effets d'aubaine, on est en train de revenir en arrière sur des dispositifs.
Sur l'apprentissage notamment,
etc. Donc on est peut-être trop revenu en arrière. Et le gouvernement, ils sortent 5 ministres et ils vont nous réannoncer des trucs, je pense, autour des petites usines à gaz, qu'on n'a pas beaucoup les moyens de mettre beaucoup de carbone.
Ouais, c'est assez cosmétique, par exemple.
On va vous parler des lycées professionnels, je pourrais presque faire l'affiche. Mais il y a un vrai problème et je pense que le problème, il est politique. Il est, encore une fois, dans une forme de, j'aime pas le mot fragmentation, mais c'est peut-être un peu le cas quand même. Autour de ce problème. Et sachant qu'on a aussi un problème sur l'emploi des seniors, parce qu'on a le même, comme en miroir, à partir de 50 ans, c'est très très compliqué de trouver un job dans ce pays, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment en Europe.
Parmi les mesures Il y a notamment cet insert score qui permettra de faire connaître et mettre en avant les métiers d'avenir et les formations où il y a des jobs, combien ça paye. Ça paraît du bon sens, hein, qu'on l'ait pas encore mis en place, mais très
ça,
bien.
Ça a été mis en place. Je vais faire mon Pierre-Henri de Menton. Ça a été mis en place à l'université il y a quelques années.
Ils veulent le faire connaître d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est mis en place, mais on ne le connaît pas encore. Donc là, le mouvement aujourd'hui, c'est de le faire connaître. Et puis sur le rapprochement, j'étais surpris, des jeunes et de l'entreprise, l'accent sera mis sur la santé et la sécurité. Bon, non, voilà l'appréhension de
Christian Saint-Etienne. En fait, ce qui se passe, c'est que les nets, il y en avait avant.
Donc les jeunes sans emploi, sans formation, sans diplôme, ceux qui ont quitté l'école sans rien. Pour faire ça.
Je vais rappeler qu'on a à peu près, grâce aux travaux de l'OCDE, une vision assez claire, on peut en discuter indéfiniment, sur les trois derniers millénaires de l'évolution des systèmes économiques. Il y a eu énormément de travaux faits par l'OCDE. On sait que la France, comme l'ensemble de l'Europe, était très rurale jusqu'en 1850 et qu'il y a eu le développement de l'industrie après. Quand la France était rurale, les nets, ils existaient simplement oui. Au moment des récoltes. Ils étaient journaliers, ils allaient bosser. De toute façon, on les laissait pas crever. Il y avait la redistribution par la religion, par les communautés, ainsi de suite. Voilà. Donc la question, c'est dans le monde industriel dans lequel nous sommes entrés depuis 50 ans avec la globalisation, qui est un monde extrêmement compétitif, auquel se rajoute la désindustrialisation massive du pays depuis 25 ans, les nets qui étaient intégrés dans le monde rural pendant des siècles, puis qui trouvaient des petits boulots dans le monde industriel qui était en développement rapide parce qu'ils bossaient dans la gestion de la logistique, ils chargeaient les camions, ainsi de suite. Tous ces boulots ont disparu. Hein. Et donc, maintenant, même les travaux intellectuels vont être remplacés en partie par l'intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte...
Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Dans ce contexte, je suis désolé, je reviens, c'est peut-être technique, je m'en fous. Si on fait pas un boulot colossal sur les filières, on sait par exemple que les plombiers qui sont bons, ils gagnent trois fois ce oui. que gagne un type qui travaille, qui est administratif dans une collectivité locale. Bon, par exemple, j'ai proposé, mais effectivement, je suis pas au pouvoir, mais dans la préparation d'une présidentielle, le boulot des experts, c'est de faire des propositions. Après, c'est retenu, c'est pas retenu, oui. c'est pas le sujet. Mais je pense notamment que dans une vision de réindustrialisation du pays où on travaillerait avec toutes les filières, parce que l'industrie aujourd'hui a beaucoup évolué, même la logistique, c'est une activité industrielle, même la banque et l'assurance, tout ce qui en fait fonctionne avec des ordinateurs dans la nouvelle révolution industrielle peut être assimilé à l'industrie. Donc si on faisait un gros travail de planification avec les filières, je pense que c'est un moyen d'abord de redire aux jeunes, vous avez une place, mais dans le ministère de l'industrie qui ferait ce boulot, moi je bascule toute la formation professionnelle pour en refaire une formation d'excellence comme en Suisse. Voilà.
Donc, et donc, de savoir académique,
je rappelle que la Suisse, ouais. qu'on imagine toujours avec des vaches, en fait, a une industrie manufacturière qui fait 20 points de PIB, oui. alors que nous on est tombé à 9,5.
Des formations professionnelles bien plus développées.
Et en plus, là-bas, la formation professionnelle, c'est une formation d'excellence.
Oui.
Donc on a bien fait, comme l'a rappelé Pierre-Henri de Menton sous Macron, un plus sur la formation professionnelle, mais on n'en a pas refait une formation d'excellence.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Christian Saint-Etienne, Pierre-Henri de Menton et Gaël Slimane pour cette émission passionnante. Disponible en podcast et replay. En parlant de podcast, n'oubliez pas l'Ordre du Monde, comme tous les jeudis, qui sera publié à 18h. Aujourd'hui, Annalisa Capellini et Mathieu Jolivet vont s'intéresser aux autres des trois qui peuvent faire trembler la planète. On parle beaucoup d'Hormuz, mais il y a aussi Malacca, il y a Taïwan. Ils sont au cœur de l'info-pacifique, devenu l'épicentre de l'économie mondiale. C'est aujourd'hui à 18h. Et puis tout de suite, vous retrouvez Sandra Gandoin pour BFM Entreprise. La spéciale croissance, on en a besoin. Quant à nous, on se retrouve demain. N'oubliez pas le nouvel horaire, 9h30, 10h30, toujours en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.